VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Bamako, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité aux États-Unis. Ici à Washington, déposition aujourd'hui du ministre américain de la Justice devant la commission du renseignement du Sénat. Jeff Sessions va répondre aux questions des sénateurs sur ses rencontres avec l'ambassadeur russe aux États-Unis, Sergei Kislyak, alors que les enquêtes sur l'ingérence de la Russie dans la présidentielle américaine 2016 continuent sur plusieurs fronts. Claire Morin-Gibault.
L'audition publique aura lieu à partir de 18h30, temps universel, devant la commission du renseignement qui mène ses propres enquêtes sur d'éventuelles ingérences russes dans la campagne présidentielle. Jeff Sessions n'avait pas dit, lors de son audition de confirmation au Sénat en janvier, qu'il avait rencontré deux fois en 2016 Sergueï Kislyak, ambassadeur russe à Washington. Après la révélation de ses rencontres en mars, Jeff Sessions s'était récusé de l'enquête sur l'interférence russe menée par le FBI, qui est sous son autorité. Jeff Sessions a signé en mai une lettre recommandant au président Trump de limoger James Comey, à l'époque patron de la police fédérale. Monsieur Comey est déjà passé devant la même commission sénatoriale et Jeff Sessions, ancien sénateur républicain de l'Alabama, ne pourra pas compter sur la bienveillance de ses anciens collègues.
Afrique maintenant, en RDC, psychose à Beni après l'évasion en masse de la prison centrale de Kangbayi aux portes de la ville. Plus de 900 détenus ont pris le large avec tous les risques sécuritaires concomitants pour la province du Nord Kivu dans l'est de la RDC. Nikes Kibel Beloka, directeur du journal Les Coulisses à Beni, tire la sonnette d'alarme.
Aujourd'hui, le vrai problème va se poser parce que les cultivateurs ne seront pas allés au champ. Et puis tous les axes routiers, notamment Beni Kasindi pour vers la frontière, Beni Butembo, Beni Lubero, risquent d'être des axes de mort parce que ces gens sont dans la nature et à tout moment, ils auront besoin de manger, ils pourront attaquer les véhicules, ils pourront attaquer les hommes. Donc c'est un problème sérieux qui va se poser dans la région.
Nikes Kibel Beloka, directeur du journal Les Coulisses à Beni. Au Burkina Faso, la haute cour de justice devant laquelle comparaissent les anciens ministres de l'ex-président Blaise Compaoré, débouté par le Conseil constitutionnel. Le Conseil a jugé que la haute cour viole le principe d'égalité devant la justice et qu'elle est aussi contraire à la Constitution nationale parce qu'elle ne prévoit pas de recours. Une décision qui va dans le sens souhaité par les avocats de ces anciens ministres, jugés pour leur rôle dans la répression au temps du régime Compaoré. Écoutez les explications de maître Mamadou Traoré, ancien bâtonnier et avocat de l'ex-ministre Alain Traoré.
De quoi s'agit-il? Du procès équitable. Or, précisément, les dispositions fondatrices de la Haute Cour de justice au Burkina Faso sont contraires à ce que l'accusé puisse faire appel à la décision de condamnation. En cela, les justiciables de la Haute Cour, les anciens ministres, ont eu raison. La juridiction devant laquelle ils comparaissent ne respecte pas la constitution du Burkina et ne respecte pas les standards internationaux. Il ne peut pas avoir procès dans ces conditions. Maintenant, que va faire le gouvernement face à cela? Nous attendons de voir. D'une part, le Conseil constitutionnel dit que cette haute cour, la loi en tout cas qui organise son fonctionnement, contient des dispositions inconstitutionnelles. D'autre part, la réforme de la Constitution envisage de supprimer la haute cour de justice. Moi, je crois qu'en bonne politique judiciaire et législative, il faut mettre une croix sur la haute cour de justice et voir comment, par les mécanismes du droit commun, on peut trouver une solution à toutes ces questions, à toutes ces préoccupations.
Maître Mamadou Traoré, ancien bâtonnier et avocat de l'ex-ministre Alain Traoré au Burkina Faso.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, deux journalistes maliens, auteurs d'une enquête sur les comptes suisses qui appartiendraient à des membres de la haute hiérarchie de l'Église catholique du pays, se disent aujourd'hui menacés. Ils avaient fait des révélations portant sur près de 7 milliards de francs CFA après des enquêtes fondées sur des documents de banque suisse piratés dans le cadre de l'affaire dénommée Swiss Leaks. Bakassi Koura a joint à Bamako David Dembélé, journaliste à la Dépêche du Mali.
Il s'agit de l'ouverture en Suisse en 2002 de 7 comptes chez HSBC et donc un fait signé Conférence épiscopale du Mali. Et les documents auxquels on a eu accès sont issus des Swiss Leaks. Voilà, et nous travaillons sur ce sujet, cette thématique depuis longtemps. Dans les documents, on voit des traces de rencontres entre les agents de la banque et le clergé malien. Les agents de la banque qui se sont très souvent déplacés à Bamako pour rencontrer Mgr Zerbo et autres. Ces rencontres ont eu lieu en 2005. Et en 2005, le portefeuille s'élevait à 12 millions d'euros sur ces comptes-là. Ce qui équivaut à 7 milliards de nos francs.
Alors, il s'agit là de grosses sommes. D'où viendrait cet argent alors?
Bon, notre enquête avait pour objectif de savoir la provenance de ces ressources, parce que les documents ne nous le disent pas. Et ils n'ont pas coopéré, à la limite, on nous a mis à la porte, quoi.
Donc, c'est depuis la publication de cet article que vous recevez les menaces?
Voilà, depuis la publication, effectivement. Nous avons très souvent des appels via ces numéros masqués, vous voyez, et ils nous appellent tous les deux en même temps, et à des heures pas possibles, très tardives souvent.
Mais on ne peut pas dire que c'est le clergé qui vous menace?
Non, on ne peut pas l'affirmer de façon très ouverte, mais c'est nous qui avons fait les enquêtes et il y a des indices probants dans ce sens. C'est pas le clergé, mais je dis encore une fois que c'est vraiment des gens qui bénéficient d'une manière ou d'une autre des subventions ou de projets financés par... voilà. Parce que sur les réseaux sociaux, les réactions sont clairement visibles. Hein, parce que moi, je suis chrétien. Je sais très souvent, je sais qui dit quoi là-dessus. Et dans le milieu, je connais pas mal de gens également.
David Dembélé, journaliste à la Dépêche du Mali. Au Maroc, la contestation populaire continue dans le nord du pays. Une délégation gouvernementale s'est rendue lundi à Al-Hoceima, épicentre de ce mouvement de protestation qui secoue depuis plusieurs mois la région du Rif. Yacouba Ouedraogo.
La délégation ministérielle a tenu avec des responsables de la région une réunion de travail consacrée à la problématique de l'eau. Il a aussi été question de la construction d'un barrage et d'une usine de dessalement. C'est la seconde visite de ce genre en moins d'un mois vers la ville frondeuse. Pour répondre aux revendications exprimées dans la rue, l'État a relancé ou accéléré plusieurs projets pour relancer l'économie locale. Face à la révolte populaire dans la région du Rif, Rabat mène une politique de la carotte et du bâton. Depuis le 26 mai, la police a procédé à plus d'une centaine d'arrestations, dont Nasser Zefzafi, leader de la contestation. 86 personnes ont été présentées à la justice. Près de 30 manifestants ont été emprisonnés et accusés d'atteinte à la sécurité intérieure. Depuis, la ville d'Al-Hoceima et la localité voisine d'Imzouren sont en effervescence avec des manifestations quotidiennes pour exiger la libération de tous les prisonniers.
En Allemagne, deuxième jour du G20 Afrique, la conférence Compact d'Africa à Berlin, qui sert de prélude au prochain sommet du G20 à Hambourg. La chancelière allemande Angela Merkel y a appelé hier à investir en Afrique pour limiter l'immigration clandestine vers l'Europe. Morgan Guiriec.
S'il y a trop de désespoir en Afrique, alors évidemment, des jeunes vont se dire qu'ils vont aller chercher une nouvelle vie ailleurs, a déclaré Angela Merkel, présidente du G20. L'initiative Compact with Africa prône un partenariat pour stimuler l'investissement privé sur le continent. Pour le Guinéen Alpha Condé, le président en exercice de l'Union africaine, c'est l'opportunité de mieux identifier les mesures adéquates, surmonter les obstacles à une croissance économique durable et de créer des flux d'investissement plus importants et plus stables. L'Allemagne a annoncé 300 millions d'euros d'appui pour rendre les pays africains plus attrayants à l'investissement plutôt qu'un plan d'aide.
Le président rwandais Paul Kagame a estimé que l'aide traditionnelle ne suffirait jamais pour un développement durable et que le secteur privé était absolument essentiel. Mamadou Issoufou, président du Niger, ajoute que l'Afrique a besoin de l'Europe qui a à son tour besoin de l'Afrique. Il est donc normal que les deux continents investissent dans un avenir commun.
Et vous terminez au Kenya. Au moins 4 personnes sont portées disparues à la suite de l'effondrement d'un immeuble de 7 étages dans la nuit de lundi à mardi à Nairobi, où de nombreux édifices dans les quartiers populaires sont construits au mépris de toutes les règles. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre dans notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.